Il est 8h.
Nous nous trouvons dans une nouvelle pandémie beaucoup plus létale, beaucoup plus infectieuse et contagieuse pendant plus longtemps.
Angela Merkel et son inquiétude face aux variants du virus. Les Allemands suivront la messe de Pâques sur Internet et les magasins seront fermés pendant les 5 jours du week-end pascal. À rebours de cette ultra-prudence allemande et de la sinistrose qui touche une partie de la France, nous verrons comment une grande ville, Limoges, a évité l'obligation du masque et redonné le sourire à ses habitants sans faire flamber l'épidémie. Et puis le monde change et certains le déplorent. Face aux témoignages d'agressions sexuelles, le chroniqueur de Canal+, Pierre Ménès, regrette qu'on ne puisse plus chambrer une femme. Ce sont ses mots. À 8h15, l'interview de Sonia Mabrouk. Bonjour Sonia.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Mon invitée, Elisabeth Moreno, la ministre en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes, elle réagira bien sûr à ce documentaire de Marie Portolano. Elle est volontariste et combative, la ministre, sur ce sujet, mais on l'entendra aussi sur d'autres sujets. Rendez-vous à 8h15.
À tout à l'heure Sonia, il est 8h01 sur Europe 1. Très bon réveil à toutes et à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal de 8h avec vous, François Geffrier. Bonjour François.
Bonjour. Ils ont négocié jusqu'à 2h30 du matin cette nuit. Angela Merkel et les dirigeants des 16 Länder qui composent l'Allemagne se sont quittés après une douzaine d'heures de discussion et se mettent d'accord pour resserrer encore les conditions sanitaires dans ce pays qui a pourtant trois fois moins de nouvelles contaminations que la France.
Hélène Kohl, bonjour.
Bonjour.
En direct de Berlin pour Europe 1. C'est un symbole fort en Allemagne. Les fêtes de Pâques font les frais des restrictions.
Oui, confinement, repos, verrouillage ou trêve de Pâques. L'Allemagne se réveille sans être d'accord sur le terme. En revanche, sur le fond, pas de discussion. Ça se résume en un mot-clé écrit noir sur blanc dans le compromis trouvé cette nuit. Hashtag, on reste à la maison pour réduire pendant 5 jours au maximum tous les contacts sociaux. Les entreprises devront fermer, pas de production dans les usines, pas d'office religieux, ça c'est extrêmement important dans l'Allemagne très chrétienne, pas de pèlerinage de Pâques, les retrouvailles familiales, ça sera seulement entre deux foyers si elles ne peuvent pas être reportées, tout comme les voyages à l'étranger à proscrire, les hôtels, les locations de vacances, les campings ne doivent accueillir personne. En gros, ça veut dire pas de vacances, résume la presse. Alors certes, ici, Pâques donne toujours lieu à une trêve importante avec au moins le vendredi saint et le lundi de Pâques férié, parfois aussi le jeudi saint. Tous les élèves sont en vacances et ça fait seulement que quelques années que les commerces ouvrent le samedi. Mais c'est vraiment un moment très fort de sociabilité, culturellement presque plus respecté que Noël. Et tout ça donc est annulé, seule exception. Et c'est ça d'ailleurs qui a bloqué les négociations pendant de longues heures cette nuit. Les supermarchés, Merkel voulait aussi les fermer pendant 5 jours. Mais le risque de voir les gens s'y précipiter en masse pour faire des achats anticipés l'a finalement conduit à accepter qu'ils ouvrent tout à fait exceptionnellement le samedi.
Merci Hélène Kohl avec nous depuis Berlin en direct. Et suivant l'exemple de l'Allemagne, où l'on voyait dès le mois de novembre des méga centres de vaccination déserts qui attendaient les doses et les injections, finalement la France va elle aussi mettre en place des vaccinodromes. Olivier Véran assume le terme qui était tabou depuis la grippe H1N1 en 2009. Le gouvernement qui tente de résumer sa stratégie en une nouvelle formule, ça n'est plus freiner sans enfermer, mais ça rime quand même, écoutez ça, dedans avec les miens, dehors en citoyen, slogan dévoilé hier soir par Jean Castex.
Dans les entreprises, la pause déj à la cantoche, eh bien, elle va perdre quelques degrés de convivialité.
Oui, le futur nouveau protocole sanitaire va inciter les salariés à déjeuner seuls, et même si possible via des paniers repas à consommer devant leur poste de travail. Et quand l'Allemagne verrouille encore un peu et que le gouvernement français cherche ses mots, les bons mots, un lieu fait figure d'exception, Limoges. L'une des seules grandes villes françaises où le port du masque n'est pas obligatoire dans les rues. Le maire laisse le choix à ses 132 000 administrés qu'il préfère faire responsabiliser. Sur le plan sanitaire, ça semble donc fonctionner.
Bonjour Théo Manval.
Bonjour.
Vous êtes pour Europe 1 à Limoges ce matin, où il y a deux fois moins de contamination qu'en moyenne en France. Et c'est positif aussi pour le moral.
Ah oui, ça se voit, hein, Mathieu. On voit les sourires, les bouches ouvertes à des sensations qu'on a ailleurs oubliées.
On respire. On sent les odeurs, le vent, et c'est vraiment agréable. Le soleil, ouais.
Vous sentez la chaleur, là, sur vos joues?
Ouais.
Cette chaleur, c'est cette agréable. Brise qui c'est caresse agréable. Le visage. Les habitants ici ne les ont jamais perdus. L'idée même d'un masque obligatoire leur semble une aberration.
Bah oui, quand on regarde là, il n'y a pas grand monde dans un périmètre assez grand, donc le risque, c'est agréable au moins.
De pouvoir se sourire, on a encore plus envie d'attraper le regard de l'autre pour échanger.
Bah nous, on est à la fac, c'est entre 6 et 8 heures par jour d'avoir le masque. Donc dès qu'on sort, c'est un bonheur de l'enlever.
Je me sens libre.
Liberté, Théo. Alors, il reste obligatoire quand même ce masque sur les marchés et près des écoles. Certains le portent aussi ailleurs.
Alors oui, ils sont nombreux aussi, comme cet octogénaire.
C'est aussi bien, parce que quand on a plus 20 ans, les risques ne sont pas les mêmes. Hein.
Mais surtout, tous l'ont dans la poche, toujours prêts à le réenfiler.
Par exemple, là, je vais faire des courses, donc je vais le mettre.
Oui, j'ai le masque autour du cou. Quand il y a trop de monde, ouais. C'est un petit peu dense, je le remets.
L'autodiscipline, c'est la clé ici. Exactement ce que cherche le maire, Émile Roger-Lomberti, depuis un an, en gardant une consigne claire qui n'a jamais changé et qui ne sort pas de nulle part.
Tous les matins, nous recevons les données nationales et les données locales sur la pandémie. Nous savons où nous en sommes.
Et alors ce matin, on en est où ?
131 infectés pour 100 000 habitants.
Soit un taux toujours en dessous de la moyenne de la région.
Un reportage de Théo Manval en ligne de Limoges pour Europe 1.
La pandémie a gelé pendant des semaines le calendrier du Parlement. Réformes annulées ou décalées. Voilà qu'il y a maintenant embouteillage à l'Assemblée nationale.
Oui, le temps presse pour la majorité et Hélène Terzion a pu le vérifier pour Europe 1. C'est la course à qui fera passer son texte avant la présidentielle.
Il y a un calendrier législatif qui est contraint d'ici la fin du quinquennat.
Le député de l'aile droite de la majorité, Olivier Becht, a bien conscience que la grande loi autonomie souhaitée par son groupe Agir Ensemble a peu de chances de figurer sur la shortlist des textes envisagés, mais il veut y croire.
Il faut faire rentrer, peut-être au chausse-pied, hein, en forçant un peu le destin, mais faire en sorte qu'il puisse y avoir une grande loi sur l'autonomie, mais aussi la solidarité intergénérationnelle, la jeunesse.
Face à un exécutif hostile à une loi sur la fin de vie, le député de la majorité Jean-Louis Touraine mise quant à lui sur un texte de l'opposition examiné le mois prochain pour faire voter une loi en ce sens. Même si leurs chances sont encore plus faibles, d'autres députés LREM s'activent. Jean-Baptiste Moreau plaide pour la légalisation du cannabis et François Jolivet pour l'interdiction de l'écriture inclusive dans les documents administratifs.
Je ne pensais pas entrer dans ce tourbillon médiatique. En tout cas, je pense que le combat de l'opinion publique est gagné.
Avant que la fin du quinquennat sonne le glas de l'agenda parlementaire. D'autres députés ne se cachent pas en poussant leur texte de vouloir peser pour les prochaines échéances électorales.
Hélène Terzian du service politique d'Europe 1.
Les députés israéliens, eux, sont en campagne permanente.
Oui, quatrième élection législative en moins de 2 ans. Clotilde Mravko, vous êtes en ligne de Jérusalem pour Europe 1. Alors, Benjamin Netanyahou, Premier ministre sortant, compte sur sa vaccination modèle, vaccination rapide pour retrouver son siège.
Exactement. Benjamin Netanyahou a basé quasiment toute sa campagne sur ce seul argument. En 3 mois, près de la moitié des Israéliens ont déjà reçu 2 doses de vaccin contre le Covid-19. Les restaurants, les salles de concert, les cinémas ont rouvert au début du mois. De quoi faire oublier aux électeurs les précédents couacs de la politique du Premier ministre sortant contre le coronavirus, qui avait conduit à un reconfinement en catastrophe à la fin de l'été dernier. Le succès de cette campagne de vaccination a aussi éclipsé ses ennuis judiciaires et son procès pour corruption, ou encore les résultats de sa politique économique qui a creusé les inégalités ces dernières années dans le pays. Pour l'instant donc, son parti, le Likoud, caracole en tête des sondages, loin devant son rival de la gauche et du centre, Yair Lapid. Mais même s'il arrive en tête ce soir, le plus dur reste à faire pour Benjamin Netanyahou. Avec ses alliés religieux, il n'a pas pour l'instant la majorité nécessaire pour former une coalition. Il va devoir chercher des voix à droite. S'il n'y parvient pas, le pays devra retourner aux urnes. Et là, les Israéliens vont commencer sérieusement à se lasser de ces élections à répétition.
Clotilde Mravko à Jérusalem pour Europe 1. Aux États-Unis, 10 morts dans une fusillade. Ça s'est passé dans un supermarché de la ville de Boulder, dans le Colorado. Un policier fait partie des victimes. On ne connaît pas les motivations du tireur.
Vous restez avec nous dans un tout petit instant. Il regrette qu'on ne puisse plus rien dire, plus rien faire. On entendra comment Pierre Ménès se défend face aux témoignages d'agressions sexuelles. A tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Europe 1, il est 8h10. La suite du journal, François Geffrier.
L'affaire est devenue politique et les témoignages contre Pierre Ménès, chroniqueur football à Canal+, sont corroborés par des images puisque les faits ont parfois eu lieu en direct à la télévision. Un baiser forcé, une jupe soulevée. Il s'agit, à en lire le code pénal, d'agression sexuelle. Mais hier soir, voici comment Pierre Ménès est revenu sur cette affaire, invité par Cyril Hanouna sur C8.
C'est horrible pour moi, c'est surtout horrible pour ma femme qui se fait insulter dans des proportions qui dépasse tout ce qu'on peut me reprocher, dans, probablement à juste titre, dans ce documentaire et dans ses à côté. Alors après, je ne l'ai peut-être pas volé. Mais...
Quand tu revois cette séquence, tu te dis, tu as pu dire des conneries dans cette séquence?
Dans cette séquence, je dis une seule connerie, c'est que je le referai. Pourquoi? Parce que lorsque Marie m'assène cette histoire de jupe, je suis estomaqué.
Tu t'en rappelles plus?
Ah, mais je ne m'en rappelle plus. Parce que les faits remontent au 28 août 2016. Ça a été ma dernière émission avant que je tombe malade et que je disparaisse des écrans pendant 7 mois. tout ce qu'on me reproche, que ce soit le baiser à Isabelle Moreau pour la 100e du CFC, ça date. Hein. Mais évidemment que je ne ferai plus ça aujourd'hui. Mais parce que le monde a changé. C'est MeToo, on ne peut plus rien faire, on ne peut plus rien dire. Pour moi, une fille et un homme, c'est pareil. Et si on ne peut pas chambrer une fille parce que c'est une fille, pour moi, c'est insupportable. Mais c'est insupportable pour elle aussi.
Quand aujourd'hui, tout le monde associe ton nom à un mauvais comportement avec les femmes, comment tu le vis ?
Est-ce que mal. Mal, parce que ce n'est pas moi. Je ne suis pas comme ça.
On entend Pierre Ménès. C'était hier soir sur C8, après ce documentaire, sur Canal+, après également une tribune dans le journal Le Monde. Il y a eu du mouvement et la parole se libère parmi les femmes journalistes dans le sport.
Oui, c'est tout un milieu professionnel qui est touché par le sexisme, au-delà des animatrices dont le visage est connu à la télévision. Damien Mestre.
En plus des habituelles remarques sur l'apparence physique ou la tenue vestimentaire, ce qui revient le plus dans les témoignages, c'est l'idée qu'une femme est tout simplement incompétente pour parler de sport. Vanessa Lambert, ancienne journaliste sportive, se souvient d'un des tout premiers matchs de foot de sa carrière.
Plutôt naïve, j'y vais, confiante, contente. Et un mec que je connais absolument pas, que j'ai jamais vu de ma vie, qui me dit « Mais toi, de toute façon, t'es pas là pour le foot ». Et je comprends pas sa question, je me dis « Mais qu'est-ce qu'il me fait ? On est un match de foot, donc si, je suis là pour le foot ». Il me dit « Bah non, on sait bien, t'es là pour les mecs, pour les footballeurs ».
Des préjugés qui finissent par créer une sorte de plafond de verre dans la profession et qui sont partagés parfois par des femmes elles-mêmes. Lucie, alors jeune journaliste dans une radio locale, passe un entretien avec sa chef. Elle candidatait à un poste qui impliquait de commenter des matchs de rugby.
Elle m'a ri au nez. Elle m'a dit tout simplement « Tu es une fille et tu n'as pas baigné dans le sport depuis toute petite ». J'ai pris mes affaires, je suis sortie et je suis allée pleurer dans les bras d'un ami.
Finalement, c'est donc un homme qui sera choisi. Dans cette profession, ils occupent près de 90% des postes, selon le collectif Femmes Journalistes de Sport.
Le récit pour Europe 1 de Damien Mestre.
Merci beaucoup François Geffrier, c'était le journal de 8h et on va continuer à en parler justement dans quelques instants. L'invité de Sonia Mabrouk, Elisabeth Moreno, la ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes. A tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h16 sur Europe 1, on retrouve Sonia Mabrouk et son invitée ce matin, Elisabeth Moreno, la ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances.
Bienvenue à vous et bonjour Elisabeth Moreno.
Bonjour à toutes et à tous, bonjour Sonia Mabrouk.
En septembre 2020, Magali Blandin, mère de 4 enfants, porte plainte pour violence conjugale. La plainte est classée sans suite. En mars 2021, son mari reconnaît l'avoir tué à coups de batte de baseball. Y a-t-il eu, Madame la ministre, un terrible dysfonctionnement ?
C'est un drame d'une barbarie sans nom. Je ne sais même pas l'expliquer. Je ne sais pas comment le père de 4 enfants peut tuer sa femme, son ex-femme, à coups de batte de baseball. Et cette barbarie ne s'explique pas. Je ne parlerai certainement pas de dysfonctionnement tant que nous n'aurons pas compris ce qui s'est passé derrière cette affaire. Mais surtout, ce que ça me fait dire, c'est qu'aujourd'hui, cette affaire fait la une des journaux. Il y a 3 ans, avant que le président de la République ne déclare cette cause, grande cause du quinquennat, ça aurait juste été un fait divers. Et je me réjouis que toute la société se saisisse de cette question parce que, comme vous pouvez l'imaginer, on ne peut pas mettre derrière chaque agresseur un policier pour le surveiller. Donc c'est toute une société, c'est un défi de civilisation.
Mais ça veut dire que vous cherchez à comprendre comment on en est arrivé à un classement sans suite.
Évidemment qu'il faut comprendre ce
qui
s'est passé.
Par une enquête interne,
évidemment,
inspection.
Et je peux vous dire que le garde des Sceaux s'est saisi de cette question, que moi je la suis de très très près, parce qu'aujourd'hui que la parole se libère, que les femmes osent parler, qu'elles osent raconter leur calvaire, leur souffrance, parce qu'il faut rappeler que dans notre pays, quasiment tous les jours, des femmes sont violentées, sont violées, et il est très important qu'elles aient confiance dans nos forces de l'ordre, qu'elles aient confiance dans la justice, qu'elles se sentent entendues, qu'elles se sentent écoutées, accompagnées.
Oui, parce que ça passe par ça, Elisabeth Moreno, par la politique pénale, par les consignes données au parquet. Si ça ne suit pas alors que c'est une cause du quinquennat, c'est qu'il y a un problème dans la chaîne.
Ça passe par la responsabilisation de toute une société, ça passe par la responsabilisation d'un voisin qui entend une femme crier et qui ne se bouge pas les oreilles mais qui appelle la police, ça passe par une maîtresse qui voit une mère avec un œil au beurre noir et qui ose prévenir les forces de l'ordre. Ça passe par la famille qui arrête de se taire sur ces sujets parce qu'on sait à quel drame ça peut mener. Ça passe par les 46 mesures du Grenelle qui ont été menées depuis ces 2 dernières années, sur lesquelles 100% ont été engagées et sur lesquelles nous travaillons d'arrache-pied. On n'aura de cesse que quand toute toute notre société aura compris qu'une femme n'est pas un objet, qu'on ne la tue pas parce qu'elle veut nous quitter et que les femmes sont libres de vivre leur vie. Voilà où nous en sommes aujourd'hui et j'insiste sur le fait que c'est un sujet de civilisation, de changement de culture pour que nous parvenons enfin à faire en sorte que les femmes se sentent en sécurité dans notre pays. Je veux juste rappeler que tous les ans, il y a plus de 220 000 femmes qui sont victimes de violences conjugales, plus de 90 000 femmes qui sont violées, qui sont violentées et je me réjouis encore que la presse se saisisse de ces questions et que les femmes parlent et continuent de parler.
Alors vous parlez d'un changement de culture, vous êtes également Elisabeth Moreno en charge de l'égalité entre les femmes.
Si vous le permettez Sonia, je vais juste rajouter, pardon, Madame Mabrouk, je vais juste rajouter que le 3919 est là pour écouter les femmes, que le 114 est une ligne SMS, que arrêtonslesviolences.gouv.fr est également présent. Les femmes aujourd'hui ont plusieurs dispositifs pour fuir le domicile conjugal, y compris pendant la période pandémique. Il n'y a pas besoin de certificat pour quitter le domicile conjugal. Tout ça pour leur dire qu'elles ne sont pas seules et que les associations sont là pour les accompagner et qu'elles font un travail remarquable.
Je rappelais que vous étiez en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes. J'en viens à présent au sujet du sexisme. Sexisme dans le journalisme sportif dénoncé dans le documentaire « Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste » de Marie Portolano sur Canal+. Qu'avez-vous découvert que vous ne sachiez déjà ?
J'ai presque envie de dire, je n'ai rien découvert que je ne savais déjà. Je viens du monde de l'entreprise, je connais le sexisme ordinaire. Et finalement, cette affaire, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Il ne faut pas, sous prétexte que l'on parle d'une personne connue, oublier qu'il y a de parfaits inconnus qui se permettent de traiter les femmes comme rien. Et ça, c'est insupportable. Et là encore, c'est heureux que la parole se libère, que les femmes puissent parler de tout ça. Mais avoir à utiliser le terme « salope », vous voyez, rien que le fait d'avoir à dire « je ne suis pas une salope, je suis une journaliste », ça dit le nombre de fois que les femmes ont dû entendre ça. Et je pense que la société évolue, qu'elle évolue dans le bon sens et que cette libération de la parole est tout à fait bénéfique pour toute notre société, pas que pour les femmes. On ne met pas les mains aux fesses des femmes, bon sang de bonsoir.
Et vous
on
dites, les c'est pas. Un système, ne pas concentrer toutes les critiques, voire aussi l'ampleur évidemment du phénomène et de cela.
Vous savez, si Camille Kouchner n'avait pas écrit son livre, on n'aurait pas parlé de l'inceste comme on en parle aujourd'hui. Il a fallu que ce soit quelqu'un de connu. Ça dit aussi que ça concerne toute la société, qu'il n'y a pas de frontières sociales ou géographiques à cette question du sexisme qui tue des rêves, qui tue des vies, qui tue des ambitions. Et nous sommes encore une fois sur le bon chemin. Tout le monde doit s'en saisir, tout le monde doit en parler. On doit avoir des alliés hommes parce que quand les hommes se taisent...
J'allais vous demander, Elisabeth Moreno, parce que libération de la parole, mais est-ce qu'il faut aussi qu'il y ait parfois un déchaînement, hein, y compris sur les réseaux sociaux et rappeler aussi qu'il y a une présomption d'innocence tant qu'il n'y a pas de condamnation aussi.
Alors, c'est extrêmement important
mais pourquoi vous ne le rappelez pas aussi
qu'il... Mais évidemment qu'il faut rappeler qu'il y a la présomption d'innocence. Évidemment qu'il est important de respecter. On est dans un état de droit où on respecte les droits de chaque individu. Maintenant, vous avez vu les images qui ont été diffusées. Moi, j'ai été choquée de voir ce baiser sur un plateau parce qu'on est en direct. Et puis les gens qui applaudissent, on ne se rend même pas compte que ça n'est pas normal. Donc moi, je ne suis pas dans le blâme, dans la culpabilité. Je suis juste en train de dire qu'on ne traite pas les femmes n'importe comment et qu'il faut que les femmes continuent de parler pour que cette impunité qui a régné jusque maintenant cesse enfin.
Et puisqu'on parle de femmes dans le sport, je cite Virginie Fulpin, notre éditorialiste sportive ce matin sur Europe 1, qui a parlé effectivement d'un véritable système auquel il faut évidemment qu'il faut dénoncer et pas l'arbre qui cache la forêt comme vous le dites. Alors Madame la Ministre, Elisabeth Moreno, vous êtes en charge aussi de la lutte contre les discriminations. Il y a de nombreuses discriminations. Est-ce que dans cette plateforme anti-discrimination dont vous avez la charge, est-ce qu'elle prend en compte aussi les signalements en cas de réunion en non-mixité raciale comme celle organisée par le syndicat l'UNEF et qui sont interdites aux Blancs ?
Cette plateforme que nous avons lancée il y a un mois à la demande du Président de la République pour lutter contre les discriminations est une plateforme qui, malheureusement, j'ai envie de dire, fonctionne bien. Parce que en un mois, on a eu 10 000 visites sur le site web, 3 000 appels, 650 chats. Le défenseur des droits aujourd'hui relève les différentes causes de discrimination qui remontent, qui sont liées à l'emploi, liées au logement, liées au handicap. Donc, c'est dire combien elle est nécessaire. Après, vous savez... Moi,
est-ce
ce
que parmi
que je...
ces discriminations, il peut y avoir aussi l'organisation de réunions en non-mixité raciale, interdites aux Blancs, est-ce que ça constitue pour vous une discrimination ?
Ce que je vois l'UNEF faire aujourd'hui, ça n'est pas ce que je connais de l'UNEF, que moi j'ai découvert quand j'étais étudiante, quand l'UNEF était la première association étudiante de France. Aujourd'hui, elle a 2% 5% des étudiants qui la suivent. L'UNEF qui luttait pour l'émancipation des femmes, pour l'égalité sociale, c'est pas l'UNEF que je retrouve. Est-ce que utiliser les méthodes des personnes racistes pour dénoncer le racisme, c'est la bonne méthode? Non, je ne crois pas. Moi, je pense qu'il faut dialoguer.
Vous voulez dire que derrière leur combat, il y a du racisme?
Non,
derrière leur...
ce que je veux dire, c'est qu'elles elles sont tellement en colère qu'elles estiment qu'il faut exclure. On ne résout pas les problèmes en excluant. On résout les problèmes en dialoguant, en expliquant, en éduquant, en faisant de la pédagogie, mais certainement pas en excluant.
Votre collègue Jean-Michel Blanquer, finalement. Madame Morneau va plus loin. Est-ce qu'il a raison de dénoncer les pratiques de ce syndicat, des pratiques, a-t-il dit, qui peuvent mener au fascisme?
Non, mais non. Alors, attendez. Sachons raison garder. On parle d'une association d'étudiants dans une université qui utilise des méthodes qu'elle choisit, qui à mon avis ne sont pas les plus efficaces, pour dénoncer quelque chose.
Elles sont illégales ou pas efficaces? Parce que c'est différent.
Non, on ne peut pas parler d'illégalité.
Des réunions interdites aux blancs, c'est une discrimination.
Je pense que cette association étudiante utilise des méthodes aujourd'hui qui ne sont pas efficaces parce que ça n'est pas en excluant qu'on résoudra les problèmes qu'elles sont en train de dénoncer.
Est-ce que parler de privilèges blancs, c'est nourrir une idéologie victimaire? Quand j'ai posé la question à la présidente de l'UNEF, elle s'est présentée comme une femme racisée, non blanche. Est-ce que pour vous, cela participe d'une idéologie victimaire?
Vous savez, moi, je ne suis pas née dans ce pays. Je suis née en Afrique. La France m'a accueillie. La France m'a donné la possibilité de m'émanciper, de grandir. Mes parents ne m'ont jamais permis de m'enfermer dans un rôle victimaire. Parce que chaque fois que vous vous enfermez dans un rôle victimaire, vous ne cherchez pas les bonnes solutions. Vous n'avez plus la force, finalement, de vous battre pour sortir des conditions que vous refusez. Donc, par conséquent, moi, je pense que ce qu'il est important, c'est de savoir que nous sommes dans un pays où tout le monde a la possibilité de réussir. C'est plus facile pour certains que d'autres, mais ça ne veut pas dire que c'est impossible et je préfère me battre pour que tout le monde ait la chance d'y arriver.
Mais est-ce que cette idéologie victimaire, Madame la Ministre, pousse certaines minorités à faire pression, par exemple, pour ne pas célébrer l'anniversaire du bicentenaire de la mort du plus célèbre Français au monde, Napoléon?
Napoléon est un grand homme de l'histoire française. Il a fait énormément de choses pour notre pays et il est reconnu pour cela. Et c'est pour cela que le président de la République le célèbre. Et moi, en tant à la place qui est la mienne, je suis en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes. Je suis en charge de la diversité. Et je veux que l'on parle des zones de lumière, mais aussi des zones d'ombre de nos hommes de l'histoire.
Deux expositions sont prévues, dont une à la Villette au mois de mai. Elles ne masqueront rien de tout ce qu'il a fait, de son épopée. Ces expositions sont malheureusement sous la pression des indigènes et décoloniaux. Est-ce qu'il faut lutter et refuser toute pression?
Moi, je ne suis pas pour que l'on déboulonne. Je ne suis pas pour qu'on gomme l'histoire. Je suis pour qu'on la complète et qu'on l'enrichisse. Et que l'on parle de nos hommes, de nos grands hommes de l'histoire, de la bonne manière pour que chacun comprenne ce qu'il
la
y avait
manière.
À l'époque.
Il y aurait une bonne et une mauvaise?
Je pense que si on ne couvre pas tout dans l'histoire, eh bien, si on élimine une partie...
Mais qui le fait, Madame la Ministre? Parce que quand on lit les livres, quand on voit les expositions, on voit bien que tout y est, ombre et lumière dans cette épopée.
Mais vous savez, je crois
que... Parce que là, vous parlez de la période esclavagiste.
Je pense que ce qu'il est... Évidemment...
qui a été aboli, d'ailleurs, le 29 mars 1815
mais
par le même homme.
Mais qui est aussi, absolument, et qui a été rétabli et qui est considéré aujourd'hui comme un crime contre l'humanité. Donc, ce que je vous dis, c'est que je comprends pourquoi le président de la République a décidé de célébrer et d'honorer Napoléon. Et je pense qu'il est important pour notre jeunesse de comprendre toute l'histoire. Et c'est le chemin que nous sommes
donc
en train de prendre.
À ses côtés, le président de la République, à ses commémorations.
Ben oui, évidemment. Pourquoi je n'y serais pas?
Je ne sais pas, je vous pose la question. Vous serez très à l'aise.
Et pourquoi
pour
je ne serais... Encore une fois, c'est un grand homme de l'histoire française. Il a fait beaucoup pour notre pays. Et ce que je souhaite en tant que ministre à l'égalité entre les femmes et les hommes, en tant que ministre de la diversité et de la promotion de l'égalité des chances, je pense qu'il faut que nous connaissions toute l'histoire.
Merci Elisabeth Moreno.
Merci de votre invitation.
Merci d'avoir été notre invitée. Bonne journée à vous ainsi qu'à nos auditeurs.
Merci.
Merci Sonia Mabrouk, il est 8h28.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Vous restez bien sur Europe 1 à suivre l'info Marion Calais et un nouveau point météo avec Laurent Cabrol. À tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h30 sur Europe 1, un nouveau point sur l'info avec Marion Calais.
Jean Castex l'avait annoncé la semaine dernière et voilà donc le détail du protocole sanitaire renforcé dans les entreprises pour limiter les contaminations au travail. Document présenté hier soir aux partenaires sociaux avec notamment des recommandations assez strictes pour les repas au bureau. Olivier Samin.
Oui, le déjeuner à la cantine avec l'afflux qu'on connaît à certaines heures n'est plus la solution privilégiée. Le gouvernement recommande plutôt un système de panier à emporter que les salariés viendront récupérer et qu'ils seront invités à consommer à leur poste de travail. Consommer de préférence seul. Si ce n'est pas possible, une distance de 2 mètres devra être impérativement respectée avec les collègues et le déjeuner en vis-à-vis sera de toute façon proscrit. Manger au restaurant d'entreprise sera toujours possible, mais l'employeur devra adapter systématiquement les plages horaires pour éviter que trop de monde arrive en même temps. Et dans le restaurant, dont la jauge ne bouge pas, 8 mètres carrés par convive, la solution privilégiée sera là aussi le repas pris seul, en laissant une place vide en face de soi et en respectant strictement la règle des 2 mètres de distanciation avec les autres personnes. Autant dire que les conversations seront limitées.
Un protocole qui prévoit aussi de demander aux entreprises des plans d'action pour favoriser le télétravail dans les 16 départements reconfinés la semaine dernière. Des mesures que le gouvernement entend expliquer via une nouvelle campagne de communication basée sur ce slogan « Dedans avec les miens, dehors en citoyen ». La crise sanitaire qui pèse sur le moral des Français alors qu'une réunion sur la santé mentale était organisée hier à Matignon. Les mutuelles, assurances santé et organismes de prévoyance ont annoncé leur intention de prendre en charge des consultations de psychologues sur prescription médicale. Annonce qui doit encore faire l'objet de discussions avec les médecins. Nouveau durcissement en Allemagne face à une épidémie exponentielle selon les mots d'Angela Merkel. Magasins fermés, rassemblements interdits et offices religieux annulés à l'occasion des 5 jours du week-end de Pâques. À l'étranger, toujours un suspect arrêté après une fusillade à Boulder au Colorado aux États-Unis. 10 personnes ont été tuées, dont un policier. En Israël, élection législative ce mardi, 4e scrutin en moins de 2 ans. Au surlendemain de la diffusion d'un documentaire sur le sexisme dans le monde du journalisme sportif, la ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes salue une libération de la parole bénéfique. Elisabeth Moreno, invitée à l'instant sur Europe 1, s'est dit choquée des images diffusées, notamment de ce baiser imposé à une journaliste. Ils avaient investi le centre d'entraînement de l'OM fin janvier. 4 supporters ont été condamnés hier à des peines allant jusqu'à 1 an de prison ferme. Et puis, elles n'ont même pas la moyenne, les mauvais résultats des enseignes de la mode en matière de développement durable. Le site Business of Fashion s'est penché sur les pratiques de 15 groupes allant du luxe à la grande distribution et pointé notamment une forme d'opacité sur les chaînes d'approvisionnement et l'écart entre les discours et les actes, notamment sur la gestion des déchets.
Merci Marion Calais. 8h33 sur Europe 1, Laurent Cabrol avec nous, c'est l'heure de la météo.
Tiens, j'ai une idée de cadeau. Chers amis, si vous avez un cadeau à faire, offrez un baromètre. Il permet de mesurer... Arrêtez de rire.
Ah non, vous savez pourquoi je ricane? Non. Parce que ça m'est déjà arrivé dans la vie d'offrir un baromètre.
Ah, ben ça, ben voilà. Voilà une démarche intelligente. Bonjour chérie, tiens, je t'offre un baromètre pour ton
anniversaire. Non, c'était pas elle. Mais ça... Ah bon. Continuez.
Et donc ce baromètre vous permettra de mesurer la pression atmosphérique. Et la pression atmosphérique, elle va s'afficher avec une petite aiguille qui va dire beau temps, pas beau temps, etc. Et vous allez vous tapoter sur le baromètre et en ce moment, vous le voyez monter. Ah, c'est bon signe. Ça veut dire que l'anticyclone est là. Et aujourd'hui, l'anticyclone est présent et donc il fera beau sur la France. Alors ce matin, en particularité, les températures sont basses. Moins 2 degrés à Orléans, en ce moment, toujours. Hein, 0 degrés autour de 0. Caen, Tours, Rouen, 2 à Marseille, 2 à Rennes. Qu'est-ce que je vois encore? 4 à Paris et Nancy, 8 à Nice. Et les températures dans la journée, entre 13 et 17 degrés.
Mais vous parliez du baromètre à l'ancienne, bien sûr. Parce que j'y repense, moi, c'était un machin électronique, station météo, un gadget. Vous,
non,
c'est le vrai baromètre,
non,
on tapote.
Oui, mais bien sûr,
évidemment. Mais bien sûr. Ça, j'y suis pas encore. J'y viens. Merci, mon cher Laurent Cabrol. 8h34. Dans un instant, notre santé avec le docteur Jimmy Mohamed.
Et je vais vous parler des écrans et plus particulièrement de leur impact sur le cerveau des enfants. Écrans qui sont donc à utiliser avec modération.
Notre planète dans la foulée, c'est Fanny Agostini et la revue de presse, Nicolas Canteloup, dans 10 minutes. À tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h36 sur Europe. Docteur.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Le docteur Jimmy Mohamed, le médecin d'Europe 1. Ce matin, dans notre santé, vous allez nous parler des écrans, en particulier chez les tout-petits. L'utilisation inappropriée de ces écrans impacterait leur développement?
Exactement, c'est les résultats d'une étude menée en Finlande où des enfants ont été suivis durant plusieurs années. Et cette étude montre que l'utilisation inappropriée des écrans avant l'âge de 5 ans était associée à des troubles du comportement passé cet âge. Alors, l'expérience est plutôt simple. On a interrogé des parents sur le temps d'utilisation des écrans de leur enfant dès l'âge de 18 mois. Et dès cet âge, on se rend compte qu'ils passent en moyenne 30 minutes par jour derrière un écran comme une tablette. Et ce temps passe à près de 2 heures par jour à l'âge de 5 ans. Et ce dont on s'est aperçu, c'est que plus ce temps d'écran augmente et plus on a observé des troubles du comportement, de l'hyperactivité, de l'impulsivité et même des difficultés d'apprentissage chez ces enfants.
Comment est-ce qu'on explique ces résultats ?
Alors tout d'abord, je ne fais de morale ou je ne donne de leçons à personne ce matin. Je sais que parfois c'est compliqué.
Je sais que vous avez des enfants bas âge aussi, c'est pour
ça. Exactement. Il faut reconnaître, la vraie vie est parfois différente des petites leçons qu'on peut donner. Néanmoins, moi ce que j'aimerais vous faire comprendre, c'est que cette étude concerne vraiment tous les types d'écrans que les enfants vont utiliser. Ça passe par la télévision, mais aussi les jeux vidéo et aussi les tablettes avec ces petites comptines qui ont l'air toutes mignonnes mais qui vont avoir un impact sur le cerveau des enfants. Alors, on a plusieurs hypothèses. La première, elle est simple, c'est qu'on sait que les écrans vont perturber le sommeil des enfants. Et un enfant qui dort mal, eh bien c'est un enfant qui peut être hyperactif. Et puis mine de rien, lorsqu'un enfant de 2 ans est derrière un dessin animé, eh bien cela va réduire le temps passé à interagir avec les autres membres de la famille. Ils vont donc moins jouer avec papa ou maman, moins lire, moins se bagarrer avec les frères et sœurs. Bref, tout ce qui va permettre au cerveau des enfants de se développer correctement va être en quelque sorte volé par ce temps d'écran. Et tout ça, c'est sans vous parler de l'impact sur la sédentarité et de l'effet sur le cœur et sur le poids des enfants. Alors je sais que parfois c'est difficile, mais il faut bien comprendre que ces écrans doivent être utilisés sous le contrôle strict des parents et le moins longtemps possible, même si on sait que parfois c'est compliqué.
Merci beaucoup, Jimmy Mohamed. Notre santé, tous les matins, quelques conseils et un peu de pragmatisme aussi, ça fait du bien. On vous retrouve à 15h, sans rendez-vous, l'émission Santé d'Europe 1 avec Mélanie Gomez. Qu'est-ce qui est au programme aujourd'hui ?
On va chouchouter le sommeil justement des enfants, puisque encore une fois, un enfant qui dort mal, c'est des parents qui dorment mal. Vous allez avoir tous les meilleurs conseils d'Isabelle Filioza. Elle est géniale, je ne peux pas vous en dire plus.
Isabelle, oui, je confirme. Merci Jimmy Mohamed. Sans rendez-vous à 15h tout à l'heure sur Europe 1, 8h39. L'heure de retrouver Fanny Agostini, notre planète. Bonjour Fanny.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Alors ce matin, vous nous dites que l'impression 3D va sauver le corail.
Oui, des chercheurs de l'université de Hong Kong ont vu dans l'impression 3D un moyen de reproduire l'habitat des petites algues qui se logent habituellement dans le corail et qui vivent en symbiose avec lui. L'idée est donc d'imprimer des dalles en terre cuite avec des reliefs et infractuosités semblables à du corail. En gros, on imprime des formes diverses de coraux pour faire croire à la petite algue, appelée zooxanthelle, qu'il y a un habitat à coloniser. Lorsque l'algue tombe dans le panneau, là, c'est un cercle vertueux qui démarre.
Et donc une fois que les algues reviennent sur ces dalles, les coraux peuvent recommencer à y proliférer, c'est ça ?
C'est bien ça, l'objectif est d'appâter ces algues avec le faux corail en terre cuite, algues qui vont ensuite aider à la création de squelettes calcaires de nouveaux coraux. C'est comme ça que le vrai corail va se réenraciner dans les dalles. C'est vraiment très bien fait, ces surfaces semblables au corail sont suffisamment fines, imbriquées et rugueuses pour faire croire aux algues qu'il s'agit de leur habitat naturel. D'où l'utilité des imprimantes 3D qui sont les seules capables de reproduire précisément de tels labyrinthes. Et ça marche tellement bien que les poissons qui disparaissaient auparavant sont revenus becqueter et pondre leurs œufs dans les barrières nouvellement transplantées. Une technique qui connaît un grand succès, à la différence d'autres méthodes plus barbares qui coulent du béton au fond de l'eau pour recréer des surfaces qui ressemblent au corail, alors que la terre cuite, elle, a l'avantage de ne pas modifier la chimie de l'eau lorsqu'elle se dégrade.
Le problème de la disparition des coraux sera donc réglé ?
Alors, grâce à cette recolonisation progressive, les chercheurs espèrent que ce projet permettra d'identifier les espèces de coraux les plus résistantes au réchauffement climatique, ceux qui sont capables de s'adapter et de migrer pour prospérer. Mais ne nous méprenons pas, les dalles en terre cuite imprimées en 3D sont un pansement qui nécessitera d'être remplacé tant que les eaux continueront à se réchauffer et à faire blanchir et mourir le corail. Le corail dont nous avons besoin pour qu'il y ait toujours du poisson dans la mer. Le corail qui est au cœur de la recherche contre le cancer. Le corail qui sert d'amortisseur contre les catastrophes naturelles comme les tsunamis et les ouragans. Le corail qui est en fait un des plus précieux éléments pour que nous puissions vivre en bonne santé sur une planète vivante.
Fanny Agostini, notre planète, c'est tous les matins et c'est sur Europe 1. 8h42. Dans quelques toutes petites secondes, on les retrouve Nicolas Canteloup et Julie pour la revue de presque.
Europe Matin. Le 7-9. Mathieu Béliard.
8h44. Ils sont là. Nicolas Canteloup avec Julie.
C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et
tout de suite Mathieu Béliard pour les infos du jour.
Eh oui, bonjour Julie, bienvenue bonjour. Sur Europe 1. Europe 1, regarde le monde changer. L'info du jour, ce slogan, dévoilé par Jean Castex. Dedans avec les miens, dehors en citoyen. Et oui, ça y est, on est sauvés du coup, c'est ce qui nous manquait. C'est ce qui nous manquait, c'était un slogan pour lutter contre le virus. Le gouvernement a enfin trouvé à nous la vie d'avant du coup. Cela dit, dedans avec les miens, dehors en citoyen, je sais pas, dedans avec les miens, on dirait le slogan des élus républicains condamnés à de la prison. Non, pas dedans avec les miens, non, pour moi.
D'accord.
Allez, l'autre info, c'est la ville de Limoges. Et oui, on l'apprend, la ville de Limoges où le port du masque n'est pas obligatoire. Et malgré tout, l'épidémie n'y flambe pas là-bas. Et oui, on va tous finir par vouloir vivre à Limoges. Oula, il est temps que ça s'arrête, cette épidémie. Et puis la dernière info, c'est le journaliste, on en a parlé, Pierre Ménès, qui s'est excusé après des comportements déplacés. Oui, on se souvient de tous ces images choquantes dans le canal Football Club, lorsqu'il avait, j'ose même pas dire les mots, il avait, vous vous en souvenez des mots qu'il avait prononcés, il avait dit, il avait défendu Raymond Domenech devant les caméras. C'est intolérable, insupportable.
Il est bête.
On s'y attend pas, ça. Bravo, merci Mathieu Béliard, merci. Les ministres Elisabeth Borne et Roselyne Bachelot ont le Covid. Bonjour Emmanuel Macron.
Oui, bonjour à toutes et à tous. Écoutez, je ne comprends pas. Ils le savent pourtant au gouvernement qu'il faut respecter les gestes barrières. J'ai l'impression que tout le monde n'a pas regardé la vidéo de McFly et Carlito.
Vous croyez qu'elle regarde McFly et Carlito, Roselyne Bachelot et Elisabeth Borne?
Ouais. C'est peut-être une question générationnelle, vous avez raison. J'aurais dû demander à Popek et Serge Lama.
Non mais rassurez-nous, elles vont bien.
Oui, malheureusement, elles pourront reprendre le travail assez vite. Hein. Enfin, le travail. Elisabeth pourra à nouveau être transparente au poste qu'elle occupe. Je sais même plus. Bah, écoutez, je sais même plus ce que c'est. Son poste, je sais plus. Et Roselyne pourra à nouveau mettre les artistes en colère à chacune de ses apparitions. Et ce, dès la semaine prochaine, c'est vrai.
Alors, à part ça, on va parler un peu vaccination. Vous déployez de plus en plus de vaccinodromes géants. Il y en a un au Vélodrome de Marseille, au Palais des Expositions de Nice, au Zénith de Toulon aussi.
Oui, au Zénith de Toulon, tout à fait. Oui, j'étais d'ailleurs en train d'enregistrer une petite vidéo d'encouragement. Vous permettez que je termine ?
Allez-y.
Français, ne loupez pas le grand Vaccination Tour sur les scènes les plus mythiques de France. Envie de vous faire plaisir en retrouvant une vie normale ? Venez donc assister à un show mythique avec les plus grands vedettes du secteur. Pfizer, BioNTech, AstraZeneca, Moderna, Janssen. Ils seront tous là, ne loupez pas cet événement exceptionnel qui vous donnera envie d'enlever votre chemise et de gonfler vos biceps.
Merci, magnifique, merci monsieur le président. Jean Castex, bonjour, c'est à vous maintenant.
Bonjour.
Alors, le président veut lutter contre la sinistrose et hier vous avez organisé une réunion sur la santé mentale.
Oui. J'ai fait, j'ai organisé une réunion sur la santé mentale et tous les psychiatres étaient tous d'accord pour dire que, effectivement, le président Macron ne va pas bien. Oui. Grosse poussée narcissique qui du gars, vous savez, qui veut tout faire tout seul. Attention, je dis, attention, nos concitoyens, attention à sa santé mentale, à notre président.
Oui, mais enfin bon, ça, on le savait déjà. Hein. Mais moi, je voulais parler de la sinistrose des Français.
Ah, stop à la sinistrose. Il nous faut retrouver notre joie de vivre, notre côté youp, mais aussi notre côté la boum, notre côté youp la boum.
Alors, quand on apprend que les hôpitaux sont saturés, qu'on est enfermé, que même la ministre du Travail est hospitalisée, bah, c'est un peu dur d'avoir la patate, admettez.
Et, écoutez, justement, j'ai trouvé un intérim à Elisabeth Borne, comme de toute façon du travail il n'y en a pas. Je la remplace par un ministre anti-sinistrose pour vous apporter de la joie de vivre. Si vous me le permettez, je peux vous demander, Patrick, de venir.
Non.
Oh putain, c'est génial. Je suis ministre. Tu le crois, c'est Julie, mon rêve. Voilà, les Français sont déprimés, ils ont besoin de bonne humeur. Et qui de mieux que ce cher Patrick Sébastien pour nous apporter, comme on dit, la bamboche dont chacun a grand besoin.
Ouais, c'est la fête, les Français, c'est génial. Vous savez ce qu'on va faire?
on va faire une grande chenille. Parce que la chenille, c'est hyper anti-Covid.
Oh là là.
Si tu tousses, bah ouais, si tu tousses, hein, dans le cou du mec d'en face, de dos, tu vois, et il n'est pas malade. Puis demain, au conseil de ministre, je vais faire un canular à Bruno Le Maire. Je vais mettre un coussin péteur sur son siège de ministre. Putain, on va enfin se marrer. Merci, mon Jeannot.
Ça promet, hein. Pitié. C'est une info du Figaro Eco. Au Qatar, le nouveau salaire minimum est à 1 euro de l'heure. Ça fait exactement 230 euros par mois. Il était précédemment à 173 euros par mois. Bonjour Philippe Martinez, votre réaction ?
Ma réaction, c'est que nous sommes écœurés, camarade Julie, camarade Mathieu, écœurés par ce comportement des puissants au Qatar. C'est de l'esclavagisme moderne, il n'y a pas d'autre mot. Les conditions de travail des ouvriers là-bas sont intolérables, hein, inhumaines. Moi, je crois à l'internationale ouvrière. Et j'invite d'ailleurs tous les ouvriers, quels qu'ils soient, de quelque pays qu'ils soient, à se révolter. C'est quoi ça ? Excusez-moi, on m'amène une enveloppe, c'est pas le moment.
C'est quoi,
là.
C'est quoi cette enveloppe ? Il y a quoi dedans ? Regardez.
Sûrement, vous savez, je suis habitué, les menaces de mort, c'est récurrent. Hein, vous savez, quand on est syndicaliste, c'est comme ça qu'ils fonctionnent, les gens de pouvoir, hein, faut le savoir.
Hein. Ouvrez, qu'on sache un peu.
Oui, je suis en train de...
Ouais.
Alors, merde.
Bah, qu'est-ce que c'est, Philippe Martinez ? C'est quoi ?
Non, c'est... Non, c'est deux places pour la finale de la Coupe du Monde de foot au Qatar en loge présidentielle. En plus, j'ai mon gamin qui adore le foot. Il est passé de... Vous disiez, on disait quoi ? Il est passé de quoi à combien ? À combien le SMIC au Qatar, là ?
De 173 euros par mois à 230. Imaginez un peu.
Oui, donc c'est quand même une augmentation non négligeable de 33% d'augmentation du SMIC là-bas. C'est quand même, disons-le, du sonnant et du trébuchant. C'est du jamais vu dans l'histoire de la lutte ouvrière. Donc tout ça formidable. Donc j'ai envie de dire bravo à cet effort des Qataris. C'est finalement, quelque part, ils ont un côté philanthrope.
C'est ça, bien sûr.
Hein, et je m'adresse aux ouvriers sur place. Bougez-vous le cul, parce que pour finir le chantier, moi, j'ai deux places pour la finale, moi, les gars.
Bon. Eh ben, bon match, hein, Philippe Martinez. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Les nouvelles mesures dans 16 départements vont entraîner la fermeture de 90 000 commerces. C'est bien entendu catastrophique pour ces petits commerces, mais Matignon a promis qu'ils toucheraient tous le fonds de solidarité. Bonjour, monsieur le maire.
Bruno Le Maire. Bonjour, Mme Julie, monsieur Béliard, monsieur Cabrol. Bonjour à vos aimables sous-fifres. Je le dis à Matignon, attention, mollo Matignon. Hein ? Nono, il a plus une thune. Ils sont marrants avec leur quoi qu'il en coûte. J'ai des milliards de dettes. C'est quoi ? Je suis Jeff Bezos à l'envers. Je suis certainement devenu l'homme le moins riche du monde.
Vous comprenez que ces petits commerçants soient épuisés moralement et financièrement aussi d'ailleurs. Bruno Le Maire, j'allais vous redire bonjour.
Oui, bonjour, je sais que vous en êtes. Oui, j'entends que ces petits commerçants soient épuisés. C'est normal d'être au fond du trou. Tiens d'ailleurs, c'est un beau slogan, tiens, ça me vient. Quand vous touchez le fond, touchez le fond.
Oh, ah, c'est bien
le fonds
ça,
de solidarité.
Oui,
vous avez compris.
C'est bon ça.
Quand vous touchez le fond, touchez le fond. C'est bon, ça claque. Ouais, les sous-fifres, ils n'ont pas compris. C'est pour ça qu'ils sont sous-fifres.
Ce qui m'inquiète, c'est que j'ai compris tout de suite.
Mais c'est pour ça que vous êtes chef.
Ça, c'est inquiétant quand même.
Je crois que Laurent Cabrol a rien compris. Laurent,
j'ai rien compris.
J'ai pas compris. Bon, si, je fais un cours du soir. On a le sens du slogan En Marche, vous savez.
Oui. En tout cas, bravo.
Quand vous touchez le fond, monsieur. Oui. Ben, vous pouvez toucher le fonds de solidarité.
Ça y est.
C'est bon, on peut continuer. En tout cas, bravo pour votre solidarité. Monsieur le ministre de l'économie, envers tous ces commerces. Bravo.
Pardon ? Oui, non, mais bravo, vous me dites bravo. Non, j'étais encore M. Cabrol. Non, mais merci à vous. Non, parce qu'à la fin, non, c'est vous qu'il faut faire remercier, c'est pas moi. Parce qu'à la fin, vous savez, je connais la chaîne. C'est vous qui paye, hein.
Bah, on n'en doute pas. Hein. Allez, merci, monsieur le ministre.
Ça fait une belle chute.
Oh là, c'est magnifique, on est mort de rire. Manuel Valls.
On progresse.
Allez, on avance.
Manuel Valls revient
ça
dans la
pire la suite, vous verrez.
Manuel Valls revient dans la reine
politique
française.
Vous pensez que c'est avec Valls qu'on va se marrer ?
Mais oui. Bonjour, monsieur Valls. Bonjour.
Oui, hola. Comment est-elle, la jolie dame ?
Muy
bien, le seigneur Béliard.
La jolie dame.
Ah oui, non, pardon, excusez-moi. C'est vrai qu'on est en France. Écoutez, merci en tout cas, oui, de me recevoir comme cela, simplement. sans façon. Pardon, sans façon, sans façon.
Alors, monsieur Valls, vous étiez interrogé hier sur votre impopularité à gauche. Après votre décision de soutenir Emmanuel Macron, vous avez eu cette réponse étonnante. Je n'ai pas pris conscience que, ayant rompu la promesse de ne pas soutenir un autre candidat que celui qui remporterait la primaire en 2017, cela allait faire de moi le traître.
Oui, c'est vrai, je vous le dis avec totale transparence, je n'ai pas vu, je ne me suis pas rendu compte qu'en trahissant, j'allais passer, oui, pour un traître. Mais vous savez, j'ai juste voulu quelque part aider les Français en votant pour ceux qui me paraissaient les plus aptes à gouverner notre pays. Je n'étais pas au courant que c'était en fait des macronistes. On m'a demandé de rendre service, j'ai rendu service. Madame Julie, Monsieur Béliard. Pardon, je sais, oui, ce discours, on dirait Jawad, le logeur, le terroriste à travers ce discours. Oui, oui.
Vous avez également laissé entendre que vous pourriez soutenir Anne Hidalgo pour 2022.
Écoutez, oui, je trouve que la démarche d'Anne Hidalgo, que je connais bien, est intéressante. Et je voudrais la soutenir et lui dire
Non, Monsieur Cabrol, peut-être l'a-t-elle saisi. Oui. En tout cas, voilà. Ne me soutiens pas. Va plutôt aider, je ne sais pas, Jean-Luc Mélenchon, par exemple. En plus, tu le détestes. C'est parfait. Ça te fait la meilleure des raisons pour le soutenir.
Oui, j'entends, chère Anne. Effectivement, ce n'est pas idiot. Je commence par soutenir Jean-Luc Mélenchon et quelque part, ça le plante. Et hop, les socialistes... Je vois l'idée. Les socialistes m'aiment bien parce que je les ai déjà débarrassés d'un rival et je peux te soutenir derrière. Ce serait comme ça que tu verrais les choses, je suppose.
Non, pas, en tout cas, pas tout de suite. Une fois que tu as soutenu Mélenchon, il faut encore que tu ailles soutenir, je ne sais pas, Emmanuel Macron, Marine Le Pen. Et après seulement, on pourra discuter.
Bon, écoutez, vous allez vous arranger tous les deux.
Ces précautions. Merci beaucoup, Nicolas Canteloup et Julie. C'était la revue de presse à retrouver sur Europe 1.fr. 8h57, Philippe Vandel est avec nous. Culture Média, oui. C'est la matinée qui continue sur Europe 1. Bonjour Philippe.
Exactement. Bonjour Mathieu, ça vous intéresse?
Oui.
Et bien justement, ça m'intéresse.
Ce magazine,
ça m'intéresse, vous connaissez?
Bah oui.
Les 40 ans du magazine, ça m'intéresse, est toujours autant de succès. C'est le sixième mensuel le plus lu en France. 2 600 000 lecteurs.
C'est le sixième mensuel le plus lu en France.
C'est juste complètement dingue. On en parle, on sera avec son rédac chef, Fabrice Argelas. Au sommaire également, il a 70 ans aujourd'hui. Il sera dans ce studio, et il est studieux, le dessinateur Plantu. Il prend sa retraite à la fin du mois. Il va nous parler de sa carrière et également de l'état du dessin de presse. C'est de plus en plus difficile pour passer les journaux. Même le New York Times a arrêté les dessins de presse
aux États-Unis, c'est une catastrophe.
À cause du politiquement correct. Et puis l'un des rappeurs français qui vend le plus de 10, c'est Youssoupha, qui revient pour un nouvel album. Il s'appelle Neptune Terminus.
Et c'est Culture Média de 9h à 11h avec Philippe Bandel et toute son équipe. Je vous souhaite une très très belle journée à l'écoute d'Europe 1, bien sûr. Je reviens demain matin en direct dès 7h. D'ici là, le monde aura changé. On va vous le raconter.